Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Comment créer du contenu et ta vie malgré ton syndrome de l'imposteur et faire naître ainsi le vrai toi? Oui, c'est un sacré programme. Allez, c'est parti. Bonjour, je suis Bertrand Soulier, je suis podcasteur, créateur de contenu, formateur et coach. Je crée des sites depuis la fin du siècle dernier, mais j'ai longtemps travaillé pour les autres et comme salarié ou comme freelance. Il y a quelques années, j'ai décidé de m'évader de la vie qui avait été imaginée pour moi et de créer ma vie telle que je veux la vivre. J'ai décidé de travailler pour moi, de vivre de mes contenus sur les sujets qui me passionnent au quotidien. Et mon objectif avec ce podcast et mes formations sur bertrandsoulier.com, c'est de t'aider à créer, développer ta marque personnelle, de vivre toi aussi de tes contenus avec le mode de vie qui te convient. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, j'espère que tu es en forme, que tu as la patate, que tu as l'énergie, que tout va bien pour toi, et j'ai décidé de m'attaquer au syndrome de l'imposteur. Oui, le syndrome de l'imposteur, c'est un syndrome que nous sommes beaucoup à connaître, qui n'est pas facile à gérer, qui nous éloigne de la vie que nous voulons vivre, car nous ne nous en sentons pas capables de le faire, tout simplement. Nous ne pensons pas être capables, et même que pensons par moments que nous n'y avons pas le droit. Bah oui, après tout, pourquoi moi j'aurais le droit de vivre de mon podcast? Pourquoi moi j'aurais le droit de vivre de quelque chose qui est aussi simple que parler dans un micro, de discuter avec des gens, de publier ça en ligne, et quasiment, je dis pas de rien faire d'autre, mais pourquoi moi j'ai le droit de faire ça? Pourquoi j'ai le droit d'ailleurs, hein? Pourquoi? Alors que ma maman a travaillé des années dans un bureau, que mon papa travaillait dans des usines, que ma famille a travaillé dans des mines, que d'autres étaient agriculteurs, que voilà. Pourquoi? Pourquoi moi j'aurais le droit d'avoir quelque chose qui paraît pour moi aussi facile, aussi simple, aussi plaisant, aussi amusant? Parce que je le dis, quand j'enregistre un podcast, quand je te parle là comme ça, quand j'enregistre avec des invités, j'ai pas franchement l'impression que je travaille vraiment. Et j'ai longtemps pensé que je n'y avais pas le droit, à tel point que ça m'a limité. Et si je t'en parle aujourd'hui, c'est parce que moi-même, j'en souffre fortement. Je te l'ai dit, ça m'a beaucoup ralenti. Et ça me ralentit encore parfois. En fait, à chaque fois que mon moral baisse, ce sentiment reprend de la force. Et je t'en ai déjà parlé, j'ai quelques caractéristiques, hein, on a tous des caractéristiques, on est tous faits comme ça. Moi, j'ai des émotions qui vont parfois très haut, parfois très bas. Et dans les moments où elles sont très hautes, ça me permet vraiment, ça m'accélère en fait, vraiment. Et donc ce sentiment de l'imposteur, ce syndrome de l'imposteur, il disparaît un petit peu. Mais quand je suis dans le down, quand je suis bas, il réapparaît. Et il est là face à moi en fait, et quand je me regarde dans un miroir, je vois l'imposteur qui me fait un sourire et qui me dit « T'as vu ? Je te l'avais bien dit. » T'as vu Bertrand? Je te l'avais bien dit. Et ça en fait, ce gars-là, là, je veux le dégommer en fait. J'ai essayé de le dégommer. Alors, je te donnerai quelques pistes et je vais te donner quelques pistes pour en parler des heures en fait. Vraiment pour en parler des heures. Mais d'abord, il y a un truc que je dois préciser parce que j'ai entendu il y a quelques temps une personne disant que ce syndrome n'existe pas et que c'est une excuse pour ne pas agir. Alors, je suis d'accord sur le côté excuse, mais pas sur le fait que ça n'existe pas. Je ne veux pas qu'on nie l'existence du syndrome de l'imposteur. Parce que si toi là, aujourd'hui, tu souffres de ce syndrome et des symptômes dont je vais te parler après, et qu'on te dit non, ça n'existe pas, tu n'as que des excuses, ça veut dire qu'en fait, on ne t'autorise pas à être toi et à vivre en fait ce qui est difficile pour toi et à passer outre. En fait, on est juste en train de te dire que t'es pas adapté, que t'es peut-être une merde, que tu devrais faire ça, que quand tu veux, tu peux. En fait, non, ça marche pas. Quand tu veux, tu peux. Parce que sinon, les gens, ils arrêteraient de fumer très facilement, ils arrêteraient d'être addicts aux drogues, et ils deviendraient sages, ils arriveraient à manger correctement, ils feraient du sport quand ils le veulent, ils décideraient de faire le sport du 1er janvier, et le 2 janvier, ils deviendraient sportifs. Non, le quand tu veux, tu peux n'existe pas, en fait. On est là sur des théories de la motivation, qui sont bien plus complexes que ça. On a des émotions, on a tout un tas de choses qui se fonctionnent en nous, en fait. Il faut pas oublier que, quelque part, nous ne sommes pas des robots. Le quand tu veux, tu peux est finalement une vision robotisée de notre vie. Oui, j'appuie sur un bouton, bam, ça marche. Non. Si c'était si simple que ça, en fait, tu n'écouterais pas cet épisode. Je te le dis, tu n'écouterais pas cet épisode, ou alors juste par habitude pour te demander ce que je te raconte, mais tu n'écouterais pas cet épisode. Des psychologues et des chercheurs se sont d'ailleurs penchés sur ce syndrome. Il existe, il y a des études qui ont été faites. Alors, bien entendu, peut-être que on a une tendance à se cacher derrière ce syndrome. En fait, je pense pas qu'on se cache derrière ce syndrome. Je pense qu'en fait, on le subit. On le subit très fortement, que petit à petit, en fait, il est intégré en nous et qu'on devient, en fait, une sorte d'imposteur. Alors, pas forcément dans tous les domaines, mais en tout cas, il est intégré en nous et au bout d'un moment, en fait, on sait plus trop comment faire pour s'en débarrasser, pour passer outre. Donc, il faut apprendre à le gérer. Voilà. Il faut apprendre à le gérer. On ne va pas nier son existence, mais on ne va pas nier non plus que on peut faire quelque chose. Et que justement, si on nie son existence et que on ne le traite pas, on n'avance pas. Si on ne se concentre que dessus en disant je ne peux rien faire parce que j'ai ce syndrome-là, on n'avance pas non plus. Non, il faut apprendre à le gérer, l'accepter, le comprendre, savoir d'où il vient aussi, c'est intéressant. Et puis apprendre à le gérer et passer outre. On pourrait en parler des heures. Ça sera pas le cas, hein. On va faire plutôt un épisode plutôt court. En fait, je voudrais plutôt te donner quelques pistes pour le gérer et surtout comment tu peux créer du contenu et ta vie malgré ce syndrome. Bah oui, parce que regarde, moi là, si je crée du contenu malgré ce syndrome, pourquoi toi tu le ferais pas? C'est toujours ce que je dis en fait. Si moi je l'ai fait, pourquoi toi tu le ferais pas? J'ai pas toujours créé des podcasts, hein. Il y a quelques années, je sais pas parler dans un micro. Alors oui, dans ma vie, j'ai créé des sites depuis des années, mais en fait, franchement, pour parler dans un micro, pour faire du podcast, j'ai eu le syndrome de l'imposteur. Pendant des années, je n'osais pas créer un podcast. J'ai mis peut-être 7 à 8 ans entre le moment où j'ai acheté mon premier livre sur le podcast et le moment où j'ai décidé de lancer mon premier podcast. Après, bien sûr, tu vois les autres choses. Bien sûr, tu vois, peut-être j'ai 1,6 million d'écoutes. Tu vois que j'ai des podcasts qui sont bien classés. Tu écoutes, tu vois ce que je fais. Mais en fait, il y a un moment donné, mon syndrome de l'imposteur m'a empêché de créer mon premier podcast. Et puis le deuxième. Et heureusement que je les ai créés. Heureusement que je les ai créés. Mais finalement, ce syndrome, c'est quoi? En quelques mots, je vais te le définir en une petite phrase. C'est une dépréciation personnelle qui nous empêche d'être nous-mêmes. Je le répète, une dépréciation personnelle qui nous empêche d'être nous-mêmes. Le syndrome de l'imposteur, en fait, c'est juste ça. Non, c'est pas juste ça. En fait, c'est ce sentiment qu'on a sur nous-mêmes, cette vision, on se déprécie et ça nous empêche d'être le vrai nous. J'ai fait l'autre jour, j'étais dans un podcast où je disais ma recherche actuelle, c'est de savoir quel est le vrai Bertrand. Et j'en parlais avec d'autres personnes et le vrai Bertrand, il y a une certitude, c'est que le vrai Bertrand, en fait, il est probablement plus dans les podcasts, dans la course à pied, dans le sport, dans le partage de ce que je fais, dans le partage de conseils pour créer du podcast, des contenus, du business en ligne, des choses comme ça, de la marque personnelle, que dans la famille, que dans mon entourage proche. Parce que, en fait, le syndrome de l'imposteur, il vient beaucoup, en fait, de notre apprentissage de la vie. En fait, c'est une dépréciation qui peut être totale ou partielle, tu vois. Mais elle vient de notre apprentissage de la vie, de nos expériences, de ce que nous avons vécu. Et ça commence très tôt, par quelques grandes injonctions, des comportements. Je suis très, 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 très méfiant avec moi-même, par rapport à ma fille. Ma fille, elle a 5 ans. Et déjà, je perçois en elle des moments où, en fait, où certaines injonctions qu'on pourrait lui transmettre, et c'est inévitable qu'on lui transmette. Et là, je me suis calmer là-dessus, je me fais un câlin tout de suite avec ça. Je dis c'est inévitable qu'à un moment donné je lui transmette des injonctions et elle aura à les gérer. J'en suis désolé pour elle, mais c'était le cas de mes parents, c'est le cas de leurs parents à eux, c'est le cas de leurs parents, de leurs parents, de leurs parents, de leurs parents. C'est sur des générations en fait que c'est comme ça et c'est pour tout le monde en fait. C'est vraiment pour tout le monde. Il y a des gens qui décident de ne pas avoir d'enfants parce qu'ils veulent pas leur transmettre ça, parce qu'ils auraient trop peur, parce qu'ils veulent pas leur transmettre la peur, parce qu'ils veulent pas leur dire « mais moi je voudrais pas qu'ils fassent ça, etc. » C'est aussi une forme de syndrome de l'imposteur en fait finalement. Est-ce que je peux être parent? Quand on pense comme ça finalement, c'est un peu le syndrome de l'imposteur aussi. Un jour, le médecin a dit à ma femme, elle a dit « mais de toute façon, on n'est jamais prêt. » Et même si on pense être prêt, de toute façon, la parentalité, c'est quelque chose qui est tellement compliqué, tellement vivant, parce que nous sommes des êtres vivants, qu'on n'est jamais prêt. En fait, on n'est jamais prêt. On peut pas l'être prêt. Et donc, finalement, il faut se calmer là-dessus. Moi, je me cajole, tu vois, je me fais un petit câlin comme ça. Je me dis « écoute, tu fais du mieux que tu peux. » Et souvent, en fait, je le répète, cette dépréciation, qui peut être totale ou partielle, vient de nos expériences et beaucoup de la petite enfance, et puis petit à petit, en fait, de la grande partie de l'éducation. Et puis, j'ai envie de dire, au moment où on rentre dans l'âge adulte, en fait, hein, où c'est là où je trouve qu'on a quelques claques, quelques réalités qui nous sortent comme ça un petit peu. Moi, je sais que, par exemple, le passage au lycée, hein, notamment un changement de lycée, puis ensuite passer dans le domaine universitaire, école de commerce, etc., a beaucoup, beaucoup joué aussi aussi sur ce syndrome-là. Je le sais parce que je l'ai analysé. Parce qu'en fait, j'ai un petit cahier. Dans mon petit cahier, j'écris tous les matins 3 pages. Et dans ces 3 pages, en fait, il y a beaucoup, beaucoup de schémas, de dessins, de phrases, etc. qui viennent pointer sur ce syndrome. Donc, je peux pas te résumer tout ce que j'ai fait là-dessus, sur ce sujet-là, maintenant, comme ça, en quelques minutes, parce que je voudrais pas le faire, parce que c'est long, parce qu'il faudrait un programme complet avec quelques exercices. Non, ce que je voudrais te dire, en fait, c'est un petit peu d'où ça peut venir, quelques symptômes, et puis, vraiment aussi te donner moi ma vision des choses. Si tu veux créer du contenu, créer ta vie, créer ta marque personnelle, te montrer, oser être toi. C'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. Alors, d'où ça vient? D'où ça vient? Ben déjà, il y a quelques injonctions, quelques comportements que tu as vécu et qui vont peut-être te parler. Par exemple, tu dois réussir. C'est-à-dire que peut-être que la réussite personnelle, ta réussite à toi, était peut-être une injonction familiale. Oui, des parents qui n'ont pas réussi, qui espèrent que leurs enfants feront mieux qu'eux. Ou alors, ils espèrent que leurs enfants seront à la sécurité. Cette espérance que l'on a pour ses enfants peut se transformer finalement en une injonction. Tu dois absolument réussir, tu dois trouver un travail, tu dois avoir un diplôme, tu dois avoir un métier. Combien de fois je l'ai entendu? Ne me dis pas que tu l'as jamais entendu. Tu dois être parfait. Ça aussi, la perfection. Tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu ne peux pas rater, tu peux pas faire ça. Regarde, tu dois avoir une bonne note, tu dois faire ça, tu dois savoir ça par cœur. C'était dans mes devoirs, quand on me forçait à faire mes devoirs. Ça a pu être mon père qui fait du bricolage, qu'il faut absolument que 3 trucs soient droits. Ça peut être aussi quand les petites poussières étaient par terre, qu'ils n'auraient pas le droit d'être par terre. Ça peut être sur le rangement de ma chambre, où moi, ma chambre me semblait rangée, mais n'était jamais assez bien rangée, par exemple, pour ma famille. Tu vois, ça, c'est un truc, c'est une injonction finalement, qui veut dire, ben en fait, tu ne fais pas assez bien. Tu ne fais pas assez bien. Tu n'as pas réussi à faire ce qu'on t'a demandé. Tu ne fais pas assez bien. La comparaison dans la famille avec les autres. Aussi, ça, c'est un élément qui peut jouer très fortement. Alors, ça peut être avec frères et sœurs, des cousins, des cousines. Encore, il n'y a pas longtemps, j'ai eu une réflexion de ma maman qui m'a dit, à propos d'un demi-cousin, parce que c'est pas un cousin direct, mais c'est un demi-cousin par le biais des mariages, qui m'a dit, ben, lui, au moins, m'a dit comme ça, ah ben, lui, il a réussi, hein. Lui, tu vois, au moins, lui, il a réussi. Tu te rends compte de la comparaison? Que ça place, en fait, finalement, entre moi, alors je te dis même pas quand elle me dit il faudrait trouver un vrai métier, mais ce qui veut dire que mon métier de podcasteur, de coach, de quelqu'un qui fait des programmes, qui t'aide avec des programmes en ligne, qui peut t'accompagner sur du coaching, à créer du podcast, à créer ton business, à te vendre en ligne, etc., mais aussi à faire d'autres choses dans le sport et tout, n'est pas un vrai métier, en fait. Bah oui, pour ma famille, le métier, ça n'existait pas, donc c'est pas un vrai métier. Alors qu'une personne qui fait un vrai métier, bah, y a pas de souci, il fait un vrai métier, il a une belle maison, il a réussi, il a des chiens, des enfants, donc lui, il a réussi. Voilà, la comparaison. Et puis, ça peut être aussi la mise en avant d'une différence, d'une caractéristique que tu as, qui finalement est aussi jugée peut-être comme un truc qui va faire que tu dois réussir, tu dois être parfait, parce que finalement, t'as une mise en avant d'une différence. T'en veux une? Bah, en fait, c'est ton intelligence, ta forme d'intelligence. Je dis pas que t'es plus intelligent que les autres. Je dis en fait que tu as une forme d'intelligence, une forme de compréhension du monde, qui peut-être en fait a été remarquée. Alors il y a deux manières de qu'elle soit remarquée. C'est soit elle était remarquée et était fortement valorisée en disant bah puisque tu sais faire ça, ça, ça et ça, ça va être facile pour toi, tu dois réussir, tu dois être ça. Donc c'est par exemple des enfants qu'on pourrait dépister comme étant au potentiel. Ça pourrait être des enfants, on dit bah tiens lui c'est plein de trucs. Moi par exemple quand j'étais petit, on disait que j'avais une mémoire incroyable, que j'étais, on m'appelait Mini Quid, c'était le surnom, Mini Quid. Je regarde un truc, je lis un truc, bam, je le ressors. Bam, tac tac tac, je le ressors. Ça marche encore, c'est super pratique cette histoire-là, hein. Ça m'a sauvé mes études. Mais en fait, c'était une différence. C'est-à-dire que pendant que les autres, il leur fallait des heures pour retenir un truc, on va toujours dire « Ah mais toi, tu l'écoutais une fois et tu le savais. Toi, tu voyais une fois, tu sais. Ça, tu savais faire ça, tu fais. » Encore, il n'y a pas très longtemps, on a encore parlé de cette histoire-là. Et puis, ça peut être aussi le manque de valorisation de cette fameuse compétence. C'est-à-dire qu'en fait, ça peut être une négation. Parce qu'elle peut faire peur aussi, en disant « Oh là là, si mon fils est trop intelligent, je vais pas comprendre ce qu'il me raconte. Si ma fille est trop intelligente et qu'elle me parle de ça, je sais pas ce que je vais lui dire. Oh, tu te rends compte ?» Et vous savez, c'est la peur en tant que parent de la fameuse question « Maman, papa, comment on fait les bébés ?» Bon, je me suis rendu compte que quand ma fille m'a posé la question, elle était petite, hein. Elle était vraiment petite. Je pensais pas que ça arriverait si vite. Ben finalement, à chacun, j'en trouve une explication. Et puis que finalement, elle a très bien compris. Elle a pas compris tout le schéma. Alors, elle comprend tout le schéma du digestif, hein. Ça, c'est autre chose. Mais par contre, sur le schéma reproducteur, elle a pas tout compris. Mais Elle a quand même compris, hein. Il y a quand même certains attributs masculins, féminins, etc. Elle a bien compris le système des petites graines et tout. Alors, on n'a pas eu besoin de passer par des fleurs, des animaux, je ne sais quel autre truc. Elle a très très bien compris que techniquement, comment ça pouvait se passer. Alors, elle n'a pas compris tous les détails techniques, mais en tout cas, elle a compris techniquement. Ce qui veut dire que finalement, sur cet instant-là, même si elle n'a pas l'idée de comment ça se passe exactement, bon, bah, en fait, elle a compris. Donc ça veut dire qu'on était capable de lui transmettre en tout cas cette compréhension des choses. Donc finalement, vous voyez, même cette peur-là, finalement, ça passe. Et puis, il y a un autre truc aussi, c'est le manque d'acceptation inconditionnelle par les autres et par soi-même. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le sentiment qu'on a pu être aimé à condition de. Le chantage, par exemple, dans la famille. Je te roi du gâteau, si. Oui, je t'aime, mais fais ça. Et en fait, le manque d'acceptation, il vient aussi, par exemple, sur les notes. Je l'ai eu, moi, dans ma vie, j'ai eu des trucs du style qui était de dire « t'as une bonne note là-dedans, mais si t'avais travaillé dans ce truc-là, t'aurais encore une meilleure note. Ah oui, t'as une bonne moyenne, hein. Mais si t'as une bonne moyenne là en truc et ça, mais en maths et tout, mais si en français t'avais travaillé ta dictée, bah, t'aurais une super bonne note. » Et en fait, moi, à mon âge, qu'est-ce qu'elle changeait? Rien du tout. Qu'est-ce qu'elle changeait? Et en fait, cette vision, cette manque d'acceptation inconditionnelle, qui des fois peut être un amour conditionné aussi, qui est conditionné à quelque chose, en fait, ça a une mauvaise vision sur nous, parce que finalement, on doit dire, je dois faire ça. Donc, on a des injonctions. Il faut que je fasse ça. Je dois faire ça pour être aimé, pour qu'on accepte qui je suis. Et donc, finalement, on rentre dans un système où en fait on s'éloigne de nous-mêmes et finalement on le fait même pour nous-mêmes. C'est-à-dire je m'aimerais si je fais ça, je m'aimerais si je réussis à faire ça. Et à un moment, en fait, on n'est plus nous-mêmes puisque finalement on ne peut pas être nous-mêmes parce que en fait on va se brider, on va rentrer dans ce qui est attendu de nous, ce que l'on attend de nous pour être apprécié, pour être aimé, pour être considéré, pour être valorisé. Donc, toutes les choses qui nous permettent en fait d'être serein, de se dire je suis capable de le faire, je vais le faire, je vais créer du contenu, je vais sortir par exemple du salariat pour devenir entrepreneur, pour devenir freelance, pour proposer des choses. Tout ça, en fait, on va pas pouvoir le faire parce que, en fait, tout systématiquement, on va revenir sur si je le fais, je dois absolument réussir. Si je le fais, ça doit être parfait. Si je le fais et que ça rate, que vont dire les autres? On va pas m'apprécier, on va m'aimer. Si je le fais, on va dire que bah, finalement, oui, ben écoute, c'est bien, t'as fait ça, t'as réussi à faire ça, mais c'est pas si, c'est normal que t'arrives à le faire, parce que finalement, on savait que t'étais intelligent, on savait que t'avais des compétences là-dedans, etc. En fait, on en vient beaucoup sur ces grands problèmes. C'est chaque fois qu'on va essayer de faire quelque chose, on va revenir en fait sur ces grandes peurs, sur cette peur de l'échec, par exemple, ou même la peur du succès. Parce que finalement, des fois aussi, le syndrome de l'imposteur, en fait, il matérialise la peur du succès, par exemple, une sorte de trahison familiale. Oui, mais moi, si je fais ça, et ma famille à côté, ils ont trahi à la mine et tout. Je t'ai dit ça tout à l'heure. Je te l'ai dit, je te l'ai raconté. On m'a dit, dans ma vie, il faut travailler dur. Le travail, c'est dur, c'est pas de l'amusement, etc. Et là, moi, je te dis que mon métier, c'est de discuter. Le mot, mon ikigai, c'est la discussion, c'est discuter. Discuter avec toi dans mes contenus, discuter avec toi sur les réseaux sociaux, discuter avec toi dans des communautés, discuter avec des personnes dans mes podcasts hein, et te faire écouter ces discussions, discuter avec toi dans des coachings, c'est mon métier. Il n'y a jamais personne, la discussion, moi pour moi, dans ma jeunesse, c'était les moments de temps libre, etc. Les gens discutaient entre eux, c'est après le boulot, c'était pas un boulot de discuter, vraiment pas un boulot. Et donc finalement, de réussir dans ce domaine-là, c'est aussi trahir finalement le pacte qui avait été passé de manière un peu dans l'enfance, de dire, bah, écoute, tu travailles dur, tu as un diplôme et tu vas travailler dur, tu peux rapérer ta maison, avoir des enfants, payer la retraite, être confortable à 60 ans ou 75 ans quand tu auras enfin ta retraite, etc. Bref, tout ça en fait, ça a conduit, peur de l'échec, peur du succès, sont des signes, des symptômes du syndrome de l'imposteur. Le besoin d'être remarquable ou d'être reconnu, ben oui, parce que si on n'a pas valorisé des compétences, à un moment donné, tu as besoin aussi de dire ben, « j'ai besoin d'être reconnu ». Si on n'a pas accepté de manière inconditionnelle, si tu t'aimes pas ou si on t'a pas aimé de manière inconditionnelle, tu as besoin finalement d'être reconnu, d'être aimé. Tu as besoin qu'on voit ce que tu es capable de faire. Tu as besoin d'être remarqué pour ce que tu es capable de faire. Moi, je dis souvent, en fait, que j'étais invisible. J'avais le sentiment d'être invisible. Soit j'étais visible et on me disait d'arrêter de faire des choses, soit j'étais invisible Et ben finalement, on s'intéressait pas à ce que je fais. Donc l'entre-deux, alors je dis pas que c'est forcément vrai, je dis pas que ça aurait pu être, bien sûr, nos parents, ils ont géré ça à leur manière. Ils ont fait du mieux qu'ils peuvent. Voilà, partons de ce principe-là. Certains, bon, peut-être un peu moins que d'autres, mais en fait, ils ont fait avec leur bagage à eux. Ils ont fait comme ils ont pu, avec le temps qu'ils avaient, avec tout un tas de choses et tout. Et c'est comme ça, et de toute façon, on n'y changera rien. Maintenant, il faut passer outre, il faut aller plus loin que ça, il faut aller plus loin que ça. Mais en fait, on remarque quand même qu'il y a beaucoup de ces traits-là. Mais on pourrait parler aussi des enseignants, on pourrait parler aussi de nos amis, nos familles, l'entourage sportif, les équipes dans lesquelles on a évolué, les entraîneurs qu'on a pu avoir, etc. J'ai eu, dans ma vie, des entraîneurs, franchement, qui ne valorisaient pas les compétences en foot. Et j'en ai eu d'autres qui les valorisaient. Il se trouve juste que dans le club dans lequel j'étais, le meilleur entraîneur n'était certainement pas l'entraîneur de la meilleure équipe. Pourquoi ? Ça, je ne l'ai jamais su, je me suis toujours posé la question. Ça lui posait problème parce que finalement, l'entraîneur de l'équipe qui était l'équipe 3, l'équipe 3, t'es toujours l'équipe 2 et l'équipe 1. Allez savoir pourquoi ? Peut-être parce qu'il valorisait d'autres choses, d'autres compétences, d'autres manières, qu'il faisait travailler différemment les choses, etc. Et probablement, lui aussi, en fait, avait aussi ce syndrome de dire « mais je suis pas reconnu pour ce que je suis capable de faire et tout, j'arrive pas à faire et ». Et je pense que dans toutes les personnes qu'on a croisées, on a des gens qui ont ce syndrome, qui l'ont connu, qui ont été manque de valorisation, dont les compétences n'ont pas été reconnues et qui en ont souffert. Et on le sait jamais, en tout cas, on n'en parlait pas. Mais maintenant, là, aujourd'hui, je t'en parle. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est important, c'est que tu dénigres tes compétences. Et puis, ça t'amène aussi dans un cycle. Un cycle, en fait, de « je doute, je procrastine ». Comme « je doute », je vais aussi aller dans la surpréparation. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Je peux te le dire que je l'ai connu, mais énormément, quand j'ai commencé l'enseignement, quand j'ai commencé les formations. J'ai fait des formations pro, ou dans lesquelles j'arrivais, en fait, pour une journée, je devais avoir le contenu d'environ 2 jours. À peu près, tu vois, un truc dans le genre là. Je connais des personnes, en fait, qui me disent toujours, et ça, c'est, tu retrouves beaucoup dans l'enseignement, qui me disent, j'ai toujours un truc en rab au cas où. Au cas où quoi? Au cas où mon cours, je sois sec, au cas où j'ai une question, au cas où j'ai ça, au cas où j'ai ça. Et le truc, c'est que je l'ai connu. Et à un moment donné aussi, il a fallu que je me calme un peu sur ce truc-là en me disant, mais finalement, la question que me pose un étudiant, il y a quoi comme solution? Un, je connais la réponse parce que j'ai déjà vécu. C'est pas sur mes slides, mais j'ai déjà vécu. Deux, je ne connais pas la réponse, mais je revois l'étudiant dans quelques temps. Je peux lui dire, je recherche, on en parle la semaine prochaine. On réfléchit à la question, voilà. Qu'est-ce que ça change? Est-ce que ça m'enlève une compétence? Non, non, au contraire, ça va me faire progresser, ça va me permettre de progresser. Mais ça, en fait, quand tu n'es pas sûr de tes compétences, quand tu n'es pas sûr que tu es capable de faire quelque chose, quand tu as le sentiment que tu dois être parfait, quand tu as le sentiment que tu dois réussir à répondre à toutes les questions, eh ben en fait, tu peux pas le vivre. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas surpréparer. Tu vas en mettre plein. Tu vas remplir. Et ça, je t'ai parlé dans l'enseignement, mais ça marche aussi dans mes formations. J'ai des formations que je vends. Franchement, j'ai fait des formations, c'est des affaires, mais c'est hallucinant, quoi. Quand je vois ce que vendent certaines personnes et quand je vois ce que je vends moi, il y a des trucs que moi je vois à 59€ qui ont des heures de contenu, quand d'autres personnes vont vendre avec beaucoup moins de contenu et beaucoup moins de valeur et d'apport, des choses à 250€. Mais c'est, ils ont raison, tu vois, et là je rentre dans un cycle de comparaison. Je me dis en fait, ils ont plus compris les trucs que moi. Moi j'ai un truc que j'ai pas compris dans ce truc-là. Et ben ça c'est aussi un symptôme de mon syndrome de l'imposteur. Donc tu vois, je peux t'en lister encore un bon paquet. Je te dis, j'ai beaucoup travaillé sur ce sujet-là. Et je te l'ai dit, ce syndrome nous empêche d'être nous-mêmes. Alors nous pensons que, par exemple, je ne vais pas être aimé si je dis ou fais ça. Voilà, ça c'est vrai, ça fait partie des gros symptômes, des grosses conséquences de ce syndrome. Je ne vais pas être aimé si je dis ça ou fais ça. J'ai peur de ne pas y arriver. Je pense que la réussite ne peut pas venir de moi, mais de circonstances de la chance. Bah oui, parce que j'ai pas les compétences finalement, hein, donc ça vient forcément de la chance, de l'extérieur ou je ne sais quoi. J'ai peur qu'on se rende compte que je n'ai pas les compétences, que je dis avoir ou que je suis supposé avoir. Par rapport à, je sais pas... Imaginons, je suis coach, je suis censé avoir ça comme compétence. Mais qui a défini quelles compétences je veux avoir en fait? Hein? C'est moi. Et comme moi je me dévalorise et comme je veux me sécuriser, j'ai une tendance en fait à me dire mais il faut que j'ai ça toujours plus, toujours plus. La course aux formations, la course au coaching, aux accompagnements, la course à tiens, il faut que je me que j'ai une formation dans ça, il faut que je sache ça, La course aux livres, aux apprentissages, écouter toujours plus de podcasts. Ah ouais, si tu te reconnais tout au fil de l'épisode, rassure-toi, il y a un moment donné on va essayer de chercher des solutions aussi. Et puis aussi, je n'ose pas faire les choses. J'ai honte et je culpabilise de mes échecs. Mais pourquoi j'arrive pas à le faire? Ah, ce truc-là. Mais pourquoi j'arrive pas à le faire? D'ailleurs, même qui vient souvent de nous-mêmes, hein, c'est-à-dire que quand on a un peu d'expérience dans un domaine, on se dit mais pourquoi ça j'étais capable de le faire la semaine dernière et pourquoi aujourd'hui je n'arrive pas à le faire? On ne s'autorise pas en fait à ne pas réussir un truc. On a honte. On dit mais bah attends, ça j'ai déjà fait, j'arrive pas à le faire aujourd'hui. Mais qu'est-ce que je suis nul en fait? La dernière fois c'est de la chance. Bah non, pas forcément en fait, il y a des circonstances. Alors surtout par exemple si t'es dans le sport, surtout si c'était s'il y a des liés à des contraintes par exemple sur l'audience aussi. Si par exemple tu veux vendre quelque chose et que tu n'arrives pas à le vendre, bien sûr ça peut venir de ce que tu ne vends pas comme du produit tel que tu le présentes, mais ça vient aussi de la personne en face qui appuie sur le bouton. C'est-à-dire que quelque part, il y a des personnes c'est pas le moment, elles ont pas le budget, elles ont autre chose à faire, elles veulent se concentrer sur autre chose. Peut-être d'ailleurs qu'elles sont en train de lutter contre son homme dans l'imposteur en se disant bah non, je vais pas acheter une nouvelle formation, tu vois. Bon, bah, écoute, c'est comme ça. Mais ça tu peux pas le savoir en fait et tu ne peux pas juger ta propre réussite sur ce que font les autres en fait. C'est pas possible. De même que tu peux pas nier que la météo peut intervenir si t'es dans le sport, que tu peux pas nier qu'un adversaire si t'es dans un sport avec des adversaires, tu peux pas nier tout ça en fait. Et tu peux pas te dire que c'est ta faute à toi si finalement il s'est mis à faire froid, à avoir du vent, s'il s'est mis à pleuvoir, une personne elle a pas sorti sa carte bleue parce que juste elle avait sa facture de gaz à payer, tu vois. C'est pas de ta faute en fait, c'est pas de ta faute. Mais comme tu dois être parfait, tu dois absolument réussir, ça devient ta faute, alors que c'est pas de ta faute. Et puis tu as une vision de toi négative, qui peut être globale ou qui peut être très partielle en fait. D'ailleurs tu peux considérer que oui, t'es assez intelligent, mais en fait t'es vraiment trop moche. Bon, voilà, ça tu peux... Alors attention, hein, je te dis pas ça pour toi, je te dis ça pour moi en fait. Oui, moi par exemple pendant des années, je me suis considéré comme étant... je me sentais toujours rejeté. Et j'ai toujours considéré qu'en fait, j'étais moche. Voilà. J'étais moche, moche et bête. Bête et méchant. Non, pas méchant. Moche et bête. Bête et méchant, c'est le film. Non, moche et bête. Ça m'a, pendant des années, en fait, ce truc-là m'a porté. Mais à tel point d'ailleurs que, finalement, quand je me suis mis à grossir, prendre du poids et tout, c'était normal finalement. Oui, j'étais moche, plaisais à personne. Donc c'est normal finalement. Je continuais à être moche. Donc ce syndrome finalement qui était, je l'ai pas identifié comme un syndrome de l'imposteur finalement, mais c'était à un moment donné si une fille pouvait s'intéresser à moi, je me sentais un peu un imposteur parce que je me sentais moche. Et donc finalement ça m'a même amené à devenir de plus en plus moche. Et puis un jour j'ai essayé de changer, je me suis autorisé à changer. J'avais à peu près 30 ans quand j'ai commencé à vouloir changer, parce que autour de la trentaine c'est là où finalement nos ombres intérieures, nos démons intérieurs, les choses que on voudrait bien être capable de faire mais qu'on n'arrive pas à faire, et tout ce qu'on a rejeté qui vient de notre enfance, etc., les injonctions, c'est là où ça finit par exploser en fait. C'est là où il y a un moment dans la trentaine ça devient intenable. Il y a ce truc là qui ça devient de plus en plus intenable, et il faut soit ça nous coule et ça nous plombe et on s'enfonce dans les marées de l'angoisse, soit on arrive à les passer et on retrouve un petit peu la rive en face en se disant waouh, ça maintenant je suis capable de faire ça, ça j'ai compris ça, j'ai été capable de faire ça, j'ai changé. Et tu vas voir que ça c'est une solution du syndrome de l'imposteur. Et puis se sentir inférieur. Ah oui, comparaison avec la famille, comparaison avec un cousin, comparaison avec les autres qui font la même chose que moi, avec ce que je voudrais faire. Et franchement, par exemple, dans la création de contenu, je me suis beaucoup comparé. Je dis mais pourquoi lui il annonce qu'il vend tant par mois alors que moi j'arrive pas à faire ça. Pourquoi lui il arrive à faire ce truc-là? Pourquoi sa vidéo à lui elle marche? Franchement, elle est pas terrible. Pourquoi sa vidéo elle marche? Pourquoi son podcast il a plus de notes que la mienne, que le mien? Tout un tas de questions comme ça que je me sentais inférieur dans la comparaison. Et donc finalement, quand tu arrives à ça, tu ne t'autorises pas à être qui tu es, faire ce que tu veux faire et comment tu veux le faire. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas regarder systématiquement ce que font les autres, tu vas essayer d'apprendre tout un tas de trucs et faire un gloubi-boulga pour essayer de faire tout ce que font les autres, en oubliant qui tu es, en oubliant comment tu veux le faire, pourquoi tu veux le faire, parce que tu vas essayer de faire comme les autres. Et finalement, tu deviens une copie des autres. Et en fait, tu en viens surtout à construire un masque. Un masque Tu vois, parce que c'est un masque, il est posé sur ton visage, et tu sais qu'un masque, après, dans le cinéma, ils ont des masques qui tiennent bien, etc., ils y passent des heures pour les coller, mais si tu prends un masque de carnaval, tu sais, les masques en plastoc, il y a un petit élastique derrière, le masque, en fait, il est mal ajusté, t'es toujours obligé de le remettre, etc. Tu peux pas compter dessus, franchement, dans l'action, pour dire que personne ne saura qui tu es, tu vois, c'est pas comme un masque qui est bien ajusté, etc. Le masque, il n'est jamais bien ajusté. Et l'élastique, un jour, il va péter. Un jour, ce masque-là, il va tomber. Vraiment, il va tomber. Et en fait, c'est ce qui te fait peur, d'ailleurs. Parce que dans le syndrome de l'imposteur, c'est que tu as peur d'être démasqué. Tu as peur qu'on se rende compte que finalement, tu n'es pas aussi intelligent, que tu n'as pas réussi, que tu ne sais pas faire ça. Ah oui, tu sais pas faire ça, quoi, franchement. Et un jour, quelqu'un va se rendre compte. Un jour, quelqu'un va se rendre compte que tu as eu la chance parce que tu as fait ça. C'est le sentiment que tu as sur toi. Mais en fait, le problème de ce masque, c'est que ce masque aussi, il masque qui tu es vraiment. En fait, il masque ce que je disais l'autre jour, j'étais invité dans un podcast et je disais, c'est comme si on était un diamant. Imagine-toi comme être un diamant. En fait, ce diamant, tu sais, un diamant dans la nature, un diamant avec des belles facettes et tout, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ce diamant, il est forcément façonné par quelqu'un. Il y a des tailleurs de pierre qui vont façonner le diamant. Mais avant que le tailleur de pierre l'entre les mains, il faut que quelqu'un aille l'extraire, le trouve, le diamant. Donc il y a des mineurs qui vont aller creuser, etc. Et les mineurs, avant de creuser la pierre où il y a le diamant, ils vont d'abord enlever de la terre qu'il y a dessus, etc. Et tout, ils vont faire de... Tu as compris le principe. Moi, je considère que dans notre vie, en fait, on est dans une espèce de grosse bouse, une grosse merde. Tu vois, il y a une grosse merde là. Et au milieu, cette grosse merde, elle recouvre une pierre. Une grosse pierre. Avec de la terre et tout. Au milieu de cette pierre et de cette terre, il y a un diamant. Ce diamant, il faut le façonner. Il faut tailler les petites facettes. Et en fait, c'est un travail d'une vie complète. C'est un travail d'une vie complète. Ce diamant, en fait, c'est ce que tu vas partager. C'est ce que tu vas donner aux autres. C'est ce que tu vas montrer quand tu es vraiment toi. C'est comment toi, tu es bien avec toi-même, j'ai envie de te dire. C'est quand finalement, quand tu te regardes, tu te sens pas un imposteur, mais tu te sens juste à ta place. Donc, ce diamant, tu participes à le sculpter, mais il y a plein de gens autour de toi qui participent à le sculpter. Le truc, en fait, qui est vraiment important, c'est que tu dois vraiment te dire que c'est possible, que tu dois prendre le problème, tu dois le considérer, tu dois le regarder, que tu dois avancer dessus, et que à un moment donné, tu ne peux pas en faire une excuse. Tu peux pas dire, effectivement, comme disait la personne que je te disais tout à l'heure, dire que c'est comme ça pour tout le temps, tu ne peux pas le faire. Non, il y a un moment donné, on doit trouver un moyen pour avancer. Je te l'ai dit, tu le constates, c'est un truc que je connais bien, et cela m'a empêché de faire pas mal de choses. Je vais te lister quelques trucs, et puis ensuite on passera aux solutions. J'ai attendu des années avant de lancer mon podcast. Je te l'ai dit, j'ai attendu je ne sais pas combien de temps. Je crois que c'est passé 8 ans entre le moment où j'ai acheté mon premier livre sur comment créer un podcast et le moment où j'ai lancé ce podcast en 2017. Ouais, j'ai attendu un sacré paquet de temps. J'ai fait d'autres choses en attendant. J'ai fait d'autres choses, mais j'ai attendu. Une fois que j'avais lancé mon podcast, que j'avais commencé à avoir de l'audience, etc., ce podcast a été à une époque, quand il s'appelait Votre Coach Web numéro 1 dans la catégorie marketing. Déjà, je me disais, c'est un bon coup de bol. Bref, et puis je n'ai pas lancé mes formations assez rapidement. Je me disais, mais qui veut acheter mes formations? Je donne des conseils, etc. Personne ne voudra jamais acheter. Je pense que j'ai mis 15 mois ou 16 mois avant de ma première formation. Ça, c'est une grave erreur, mais c'est juste en fait que j'avais la trouille, j'avais peur, et je me suis dit, quelqu'un ne va jamais acheter mon truc, je suis un imposteur. Je ne voulais pas faire de coaching non plus. Je me suis rendu compte, si on me pose une question, je ne sais pas y répondre, si je ne peux pas aider les gens, s'ils n'ont pas de résultats, etc. Je n'ai pas répondu à des mails de gens voulant travailler avec moi. Des gens qui me disent « Ah ben ça m'intéresse, ce que tu fais, comment ça marche, etc. » Il y a certains de ces mails-là auxquels je n'ai pas répondu. Et encore récemment, je me suis surpris en fait sur une discussion Instagram où le message de départ, je me disais « Peut-être que je peux aider la personne. » J'ai dit « Mais je prends un petit peu de temps pour lui répondre. » Et où finalement, c'était un moment un peu dans le done, dans le mal et tout, j'étais pas très bien. Et ben finalement, ce message, maintenant, je retrouve pas. Donc, tu vois, je l'ai perdu parce qu'il s'est noyé dans des dizaines de messages, etc. Ou alors, peut-être, je sais même pas pourquoi, tu vois. Mais en fait, toujours est-il que je n'ai pas répondu à cette personne-là. Et donc, il s'est manifesté aussi dans beaucoup de domaines de ma vie. Hein, et là, je t'ai parlé de quelques exemples, mais il s'est manifesté dans beaucoup, beaucoup de domaines de ma vie. Vraiment, ça, je l'ai constaté. Et ça peut être le podcast, ça peut être l'entrepreneuriat, ça peut être ma vie d'homme, ça peut être le sport et tout. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et pourtant, il y a une solution. Hein, sinon je ferai pas cet épisode, hein, sinon j'ai pas envie de te plomber pour la journée. Un moyen d'avancer. En ce moment, je regarde beaucoup mon parcours, mes podcasts, la place du sport. Et en fait, je regarde aussi où moi je me sens imposteur. Qu'est-ce qui a fait que je me sens un imposteur? Où est-ce que j'ai pu être un imposteur? Qu'est-ce qui a fait, par exemple, que j'ai pu être un imposteur? Quels sont les messages que j'ai pu entendre? Ça peut être des comparaisons avec les autres, ça peut être des comparaisons avec ma sœur, par exemple, dans le sport. Ça peut être aussi le truc, ah oui, il est intelligent, il est doué, mais il travaille pas assez. Voilà, ça, combien de fois j'ai entendu. Ou alors, moi, je voulais trop jouer plutôt que de faire mes devoirs, plutôt de travailler, etc. Donc, je suis pas travailleur, je suis pas bosseur, etc. Donc, je pourrais pas y arriver. Tu vois, donc, d'un côté, on met en avant ma compétence intelligence à faire des trucs, et puis de l'autre côté, on dit oui, mais bon, de toute façon, il va pas y arriver. Donc, c'est le paradoxe de l'histoire. Mais il vient de là, le syndrome de l'imposteur, en fait. Le paradoxe. Le paradoxe que tu as des compétences, mais que tu n'es pas capable de les exprimer. Tu es doué pour des choses, mais tu ne penses pas être capable de le faire. Tu fais des choses qui sont peut-être déjà extraordinaires, mais tu penses que tu fais des choses nulles. Voilà. Je ne suis pas aussi doué, je ne suis pas aussi fort, je n'arrive pas à faire les choses. Voilà. Tout ça, ça fait partie, en fait, de ce qui peut créer le syndrome de l'imposteur. Voici maintenant, ensuite, mon constat, et tu vas comprendre pourquoi je fais ce constat-là, et je vais te donner des éléments pour avancer toi aussi là-dessus. Aujourd'hui, j'ai repris le sport durablement, alors que pendant des années, je faisais plus de sport. J'ai perdu 30 kilos, je cours tous les jours, j'ai couru un marathon et un 24 heures. Et ça, je l'ai fait avec mes jambes. Mes jambes à moi. Oui, mes jambes à moi. C'est mes jambes qui courent un 24 heures. C'est mes jambes qui courent tous les jours. C'est mes jambes qui courent un marathon. C'est mes jambes qui ont fait 2 500 km l'an dernier. Ce sont mes jambes. Mes jambes à moi. Des milliers de personnes écoutent mon podcast qui est KM42, sport et nutrition, mes autres podcasts, ce podcast. Et ça, je le fais avec mon cœur et ma tête. Oui, mon cœur, ma tête, ma réflexion, mon propre cerveau, mes propres idées que je vais chercher dans ma propre tête. Oui, bien sûr, il y a des choses que je lis, mais la plupart des choses que je te raconte, c'est ce que j'ai vécu avant tout. Et ça, c'est mon cœur et ma tête, ma volonté de te partager les choses. Mes trois podcasts, sport, donc sport nutrition, kilomètre 42 et maintenant kilomètre 350, sont dans le top 20 des podcasts sport en France. Ça, je l'ai fait avec mes compétences. J'ai appris beaucoup de choses dans le podcast. Franchement, je veux dire, j'ai fait des milliers d'épisodes de podcast. Je sais produire des épisodes très vite. Je sais produire des épisodes de qualité. Je sais faire la promotion de mes épisodes de podcast. Je sais en parler. Je sais faire beaucoup de choses autour de ça. J'ai longtemps pensé que j'en étais pas capable. Mais en fait, quand je fais la liste, si mes trois podcasts sport sont dans le top 20 des podcasts sport en France, c'est parce que j'ai les compétences et je l'ai fait avec mes compétences. C'est pas un coup de bol. Ce sont mes compétences qui me permettent de créer des podcasts, qui me permettent de les faire connaître, de les faire décoller. Et ça, je le dois à moi. Vraiment à moi. Je reçois des messages de personnes me remerciant et me disant que je les inspire. Je te garantis que ça, la première fois, je voulais pas l'accepter. Je me dis, mais pourquoi on me dit ça? Pourquoi on me dit ça? Cette semaine, j'ai remarqué un truc. C'est que je commence à accepter beaucoup plus facilement ce genre de messages. Pourquoi? Parce que je travaille dessus. Et pourquoi je l'accepte? Car je sais que si je reçois ces messages, c'est parce que j'ai fait tout ça. Parce que je suis dans ça. Parce que j'ai fait ce que je t'ai dit dans le sport, parce que j'étais dans la perte de poids, dans le changement de vie, parce que j'ai fait mes podcasts. Parce qu'en fait, ces messages-là, me remerciant, me disant que je les inspire, c'est un résultat de mes actions, de tout ce que j'ai fait. Mes podcasts sont sponsorisés. Des grandes marques. Nike, Adidas, Dacia, The North Face, d'autres marques, même Apple a acheté de la publicité sur ce podcast. C'est le résultat de ce que j'ai fait. C'est le résultat parce que j'ai de l'audience. C'est le résultat parce que mes podcasts sont visibles. C'est le résultat parce que justement les gens écoutent. C'est le résultat de tout ce parcours-là. Kilomètre 42 est né de mon expérience de comment j'ai commencé à courir, à commencer à courir un marathon, de comment je l'ai raconté, de parce que je l'ai fait avec ma tête, mon cœur, mes compétences, et parce que, en fait, c'est cet ensemble-là. Et c'est cet ensemble-là que la pub, finalement, vient aussi d'une manière, fêter un petit peu. C'est pas le mot, mais j'arrive pas à trouver le mot. Mais t'as compris un petit peu la logique. La sponsorisation de mes podcasts n'est pas un hasard. C'est parce que, pour des marques, ça semblait être le contenu qui correspondait le plus à l'audience qui recherchait à qui ils veulent vendre des chaussures, des voitures, je sais pas qui. Et pourtant, tu vois, je t'ai dit tout ça, mais j'ai souvent dit que tout ça, c'était une imposture. J'ai souvent dit que Kilomètre 42 était le podcast d'un imposteur. Et en fait, ça calme mon imposteur d'avoir fait cette liste. Tu vois, ce que je viens de te décrire, c'est ma success story. Enfin, j'ai du mal à dire. Tu vois, j'arrive même pas à le dire. Success story, ce mot, bah, c'est dur à dire. Tu vois, bizarrement, je bute sur ce mot-là. C'est aussi un peu mon carnet de réussite. Tu vois, je rétablis ma balance, la balance de mes réussites. Les réussites, à moi, mes réussites ne viennent pas que des autres, mais viennent de moi. Tu vois, je te l'ai dit. C'est parce que j'ai fait ça, parce que j'ai fait ça, parce que j'ai fait ça. Je suis dans un mode gratitude. Je me remercie pour ce que j'ai fait. Je me remercie d'avoir un jour pris la décision de perdre du poids, de me remettre à la course. Je me remercie un jour d'avoir décidé de faire un marathon. Je me remercie d'avoir créé un podcast sur comment je prépare mon marathon. Je me remercie d'avoir fait les épisodes. Je me remercie de m'être entraîné. Je me remercie, toi, tout le temps, d'avoir fait ça. Parce que si maintenant je fais ce qui me plaît et à tel point ça me plaît, c'est aussi parce que je l'ai fait. Et c'est parce que c'est moi qui ai pris la décision. Ça ne m'est pas arrivé tout cuit. Donc, j'ai le droit de dire je suis fier de ce que j'ai fait. Et ça, c'est un pas, tu vois. Avoir de la gratitude pour soi-même, c'est un pas qui est vraiment énorme. Si on vient me voir pour mes conseils, c'est car on m'attribue les capacités à aider. Et je me rends compte que dans les coachings, tu vois, la semaine dernière, j'en avais deux, par exemple. Franchement, les personnes à la fin me disent merci, merci et tout. Ça aussi, ça calme mon syndrome de l'imposteur. Et je pense que le coaching, quand tu te sens imposteur, c'est le meilleur moyen en fait pour te rendre compte que tu as des compétences qui sont bien plus larges que ce que tu penses. Je te garantis, en fait, c'est-à-dire que quand tu te sens pas capable d'aider les gens, tu dis ouais, je peux pas monter une formation, je peux écrire un livre sur ce sujet, quoi que ce soit, prends quelques personnes en coaching, même si c'est des coachings gratuits, etc. Discute avec quelques personnes sur leurs problématiques, sur les problématiques communes, sur des choses que toi tu as déjà rencontrées, sur les questions qu'ils peuvent avoir. Tu vas te rendre compte qu'en fait, tu as déjà toutes les choses en toi. Tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en toi. Ça, c'est vraiment un élément, tu vois, qui est vraiment super important. Et en plus, tu vois, ces personnes-là, elles vont te dire merci. Elles vont dire, ah oui, alors ça, j'avais pas pensé. Ah oui, mais ça, merci. Mais ce truc-là, heureusement, tu me l'as dit. L'autre jour, dans un coaching au niveau de préparation mentale, la personne en discute et tout. Puis à la fin, je dis, et au fait, il faudrait que je te parle de ça aussi. Tu pourrais tenter ce truc-là. Elle me dit, mais c'est génial, mais pourquoi j'ai pas pensé? Tu vois, ça rétablissait en fait quelque chose en plus en elle que au fil de la discussion, j'avais perçu. Et que, bah, sur le coup, on avait parlé d'autres choses, etc. Mais j'ai dit ça, tu vois. Il faut vraiment que je lui en parle. Et ce merci qu'elle donne tout le long, en fait, parce qu'elle me l'a dit plusieurs fois, c'est là une récompense, tu vois. C'était vraiment une récompense. Et des merci comme ça, à chaque fois que je fais du coaching, j'ai ce merci-là, tu vois, de dire « Ah, mais merci, tu m'as permis d'avancer, tu m'as permis de réfléchir, tu m'as permis de voir les choses différemment, tu m'as permis de faire ça et tout. » Donc vraiment, quand tu as un syndrome de l'imposteur, c'est pas facile hein, de dire « Tu as vendu du coaching ?» C'est pas facile. C'est là où tu dois forcer un peu, tu vois, les choses, où tu dois te forcer, te dire, oui, ben, je dois quand même oser, tu vois. C'est pour ça que ça peut pas tomber tout cuit. C'est là où je te dis, attention, ça peut pas tomber tout cuit. Tu dois te forcer, tu dois aller vers ça. Et puis, finalement, tout ce que je continue à me dire, c'est que, certes, il y a des choses que je ne sais pas faire. Il y a des choses que je ne sais pas faire. Par exemple, je ne sais pas courir vite. Non, ça, je sais pas courir vite. Je ne sais pas faire l'UTMB, je sais pas vendre n'importe quoi, n'importe qui, comme j'aimerais, tu vois, faire dans l'eau de Wall Street ou je ne sais pas quoi, enfin, sans les débordements et compagnie. Hein. Mais je sais courir tous les jours, je sais courir longtemps, je sais me préparer, je sais perdre du poids, je sais manger mieux, je sais gérer des podcasts, je sais développer des discussions sur les réseaux, je sais discuter avec des gens, je sais les écouter. Quelqu'un, un jour, une psy m'a dit « Bertrand, tu as un talent d'écoute. » J'ai dit « Quoi ?» Tout le monde me dit que je ne sais pas écouter. Tout le monde me dit que je n'écoute pas. Tout le monde me dit qu'en fait, quand j'écoute, je réponds pas aux trucs, etc. C'est juste en fait mon fonctionnement qui fait que moi, il y a ça le temps de maturer dans ma tête. Faut... Tu vois, j'ai besoin de temps, en fait. Moi, je suis un introverti. Quand tu me parles, je vais pas te répondre du tac au tac. Je vais prendre du temps de réflexion. Ça va mûrir dans ma tête et hop, je te le sors. C'est du talent d'écoute. Parce que quand tu te tais, que tu écoutes les autres et que tu essaies de réfléchir à ce qui est le mieux, de leur répondre, finalement, c'est de l'écoute. Mais pendant longtemps, j'ai vu ça, en fait, comme étant un défaut. Je voyais ça comme un défaut. Et certaines personnes trouvent que c'est d'ailleurs, c'est un défaut. Parce qu'elles me disent, mais tu me réponds pas. Ben non, je prends le temps de te répondre. C'est un peu différent. Tu vois, vraiment. Donc, pour te montrer que ce syndrome de l'imposteur, c'est aussi beaucoup une vision que tu as de toi-même et de comment les gens te renvoient aussi certaines caractéristiques que tu as. Parce que pour elles peuvent être négatives, alors que pour toi, en fait, tu peux les voir comme des qualités. Mais en fait, c'est difficile. Tu vois, je t'ai dit, j'apprends à m'aimer, je me suis aimé. J'essaye de m'aimer de manière inconditionnelle, mais c'est difficile. C'est pas parce que j'ai fait ça que je m'aime, c'est pas parce que je veux faire ça que je vais m'aimer plus, c'est pas parce que je vais réussir à faire ça que je vais m'aimer. Non, non, je dois juste m'aimer pour qui je suis. Inconditionnel, je m'aime tel que je suis. De toute façon, je ne peux pas changer plein de choses en moi, tu vois, ma tête, elle est comme elle est, mais j'ai en perdant du poids, elle s'est quand même améliorée. Mon cerveau, il est comme il est, il fonctionne de cette manière-là, ma vie, elle est telle qu'elle a été, je peux pas refaire mon enfant, je peux pas refaire les rencontres que j'ai eues dans ma vie, etc. Par contre, ce que je peux faire, c'est aller chercher, en fait, ce vrai Bertrand, faire tomber le masque. Trouver, tu vois, les moyens d'exprimer, d'aller chercher, en fait, c'est quoi vraiment l'endroit, le moment où je me sens le mieux? Quel était mon ikigai? Ma grande recherche de l'ikigai. Tu vois, pour arriver à dire que le mot, mon ikigai, c'est la discussion. il m'a fallu du temps, tu vois, pour dire que ce truc-là, c'était vraiment le cœur de ce que je voulais faire. Discuter avec toi, discuter dans les coachings, discuter dans les podcasts, discuter dans des vidéos, des trucs comme ça. J'ai mis très longtemps à aller le chercher. Je l'ai nié pendant longtemps parce que aussi j'ai des trucs négatifs, tu vois. J'ai des sites qui n'ont pas marché, ça a laissé une plaie. Et puis il a fallu que je me calme un petit peu là-dessus, etc. Tu vois, je me dis non, mais il y a eu ça, tu vois, et tout. Mais c'était pas le. Enfin voilà. Tu comprends un peu la logique. Je ne vais pas aller trop dans les détails non plus, mais tu as compris la logique. Maintenant, je te propose à toi de t'attaquer aussi à ce syndrome de l'imposteur. Si tu as reconnu certaines choses, je vais te proposer quelques conseils, notamment pour créer du contenu, ta vie, proposer des offres, comment tu pourrais faire. Je te l'ai dit, en fait, il y a un aspect qui est important, c'est que tu peux te sentir imposteur dans certains domaines et pas du tout dans d'autres, en fait. Et ça, c'est une première recherche qui est vraiment importante. C'est d'abord de te concentrer sur un sujet qui t'intéresse. Et je l'ai dit dans un mail que j'ai fait hier, mais c'est pas forcément sur ton métier. Et d'ailleurs, je pense que c'est même pas là sur ton métier. Parce qu'en fait, dans ton métier, dans ton cœur de compétences, dans ce que tu fais tout le temps, dans ce pourquoi tu vis et tout, tu vois, en fait, on attend que tu sois un expert, en tout cas, que tu aies des compétences. Donc là, ça renforce plutôt ton syndrome. Tu vois, si t'es comptable et tu commences à faire du contenu sur la comptabilité, tu vas vouloir être un expert, tu vas vouloir montrer que tu es un expert comptable, ou un comptable expert, parce que expert comptable c'est autre chose, mais un comptable expert, et donc tu vas craindre que quelqu'un qui voit ton contenu, un autre comptable, etc., dise « ouais non, mais ça c'est faux, ça c'est pas bon, etc. » Donc ça vient toucher en fait ton métier, ça vient toucher ton cœur de compétence, c'est pas vraiment le bon truc, tu vois. Non, moi la course à pied, tu vois, c'était pas mon cœur de compétence, mais la course à pied, le sport, en fait, c'était un truc annexe. Moi, mon truc, c'est je faisais des formations en marketing, je faisais des cours à la fac sur la communication en ligne, je faisais des cours de community management, j'étais développeur web, j'étais intégrateur web, j'étais community manager, tu vois, j'étais plein de trucs comme ça. Mon métier, c'était le web. C'était jamais, jamais de courir. Donc, j'y suis allé, en fait, comme un imposteur, j'ai envie de dire, tu vois, les mains dans les poches, etc. Dans la course à pied, c'est qui parlait avant dans la course à pied et qui parle encore beaucoup maintenant? Les coachs, les athlètes, tu vois, les équipes un peu techniques et puis les journalistes. Moi, j'avais aucune de ces casquettes. Et pourtant, j'ai pris vraiment la parole avec qui je suis et comme je suis. Et ça, je te dirai après. Donc, tu prends vraiment ce qui te fait vibrer là maintenant, ce qui t'intéresse naturellement. Tu sais, ce que je dis souvent, en fait, c'est que tu regardes ton week-end et tu regardes ce que tu as envie de faire vraiment le week-end et tu regardes ce que toute la semaine, t'as envie de faire le week-end. Tu vois, par exemple, c'est un bon truc. C'est-à-dire que toute la semaine, tu dis, oh, vivement, samedi, je puisse faire ça, que je puisse faire ça, que je puisse faire ça. Truc qui te passionne vraiment. Ou alors, tu prends 10 minutes, un quart d'heure, tu sais, sur tes pauses pour regarder ça, pour ce truc-là. Ça peut être la pêche, ça peut être la course, ça peut être le vélo, ça peut être le crochet, ça peut être le cheval, ça peut être je ne sais quoi. Mais tu sais, c'est le truc, en fait, où dès que ton travail qui te nourrit se termine, tac, tu vas dessus. C'est ça, en fait. Tu vois, c'est tac. Hop, j'en profite, je grappille un de temps. Ah, si je pouvais poser un jour de congé pour faire ça. Et puis finalement, tu finis par poser un jour de congé. Et puis, ah tiens, si je pouvais partir en week-end, je ferais ça. Ah si, en week-end. Tiens, si mon week-end était un peu plus long, je pourrais faire ça et tout. Tu vois, ça là, c'est un bon signe. Ensuite, concentre-toi sur ta progression, ton apprentissage. Qu'est-ce que tu sais maintenant? Qu'est-ce que tu savais avant? Qu'est-ce que tu vas apprendre? Où t'en es sur le chemin? Comment tu le fais? Comment tu t'y prends? Qu'est-ce que tu as appris? Quelles sont les méthodes que tu as développées pour toi? Et tu vois, si quelqu'un venait comme ça là, demain, et te disait, tiens, qu'est-ce que t'es en train de faire? Et que tu lui expliques, tu te rendrais compte, en fait, tu dis, alors je fais ça, et puis dire, mais pourquoi tu fais ça? Parce que j'ai fait ça, parce que, tu sais, avant je faisais ça, puis ça marchait pas bien, et puis j'ai appris à faire ça, puis alors, tu sais, la première fois, j'ai fait ça. Tu vois, imagine, moi, je connais rien en couture. Si j'avais une couturière, j'ai dit, mais comment tu fais pour coudre ça? Elle me dirait, je fais ça, comme ça, mais pourquoi tu fais ça? Comme ça, puis tu sais, avant je faisais comme ça, mais hop, je me suis mis le doigt dans le truc, alors maintenant je fais comme ça, et tout. Tu vois, les conseils, elle les donne très naturellement parce qu'elle les a. Et toi aussi, dans les domaines là, tu les as. Tu le sais. Franchement, je pourrais reprendre le cas de la pêche. Hein. Franchement, si quelqu'un qui est un pêcheur qui est au bord du truc, s'il pêche depuis quelques années, tu peux lui demander des conseils sur la pêche. Si toi, t'es débutant, il va te donner des conseils qui sont inestimables, qui sont vraiment inestimables pour toi, le débutant. Mais vraiment, lui, vas-y, mais tu sais, enfin moi, je comprends pas, hein, tu sais, c'est un truc tellement naturel pour moi. Bah là, c'est son imposteur qui parle, tu vois. Parce qu'en fait, l'imposteur, c'est toujours une comparaison par rapport à notre. Oui, oui, c'est ça le truc. C'est-à-dire que même ce pêcheur, il se sent pas être un très bon pêcheur par rapport au star de la pêche, mais par rapport au débutant, en fait, c'est un excellent pêcheur. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois un petit peu le truc, mais pour être capable de le savoir, il faut déjà que tu te situes toi dans ce que tu sais, dans ce que tu vas apprendre, comment tu le fais, comment tu t'y prends. Et surtout, surtout, que tu sois pas dans la comparaison. Ne regarde pas, en fait, les autres, etc. Ne essaye pas d'être les autres. Ne te dis pas que tu ne sais rien parce que les autres savent tout. En fait, il n'y a pas une question de tout rien. Il y a une question de toi, comment tu fais les choses. Et maintenant, demande-toi comment tu peux partager cette passion, cette chose qui t'intéresse. à qui tu voudrais bien en parler? Qui tu pourrais aider? Comment tu pourrais aider des gens à faire la même chose? Est-ce que tu vas le faire en podcast, en vidéo, texte, Instagram? C'est presque un détail, j'ai envie de dire. Est-ce que tu vas le faire par des formations, des séminaires? C'est presque un détail aussi. Parce que finalement, c'est beaucoup conditionné par le fait de à qui tu veux en parler. Est-ce que tu vas parler à des gens qui te ressemblent beaucoup? Est-ce que tu vas parler à des débutants? Est-ce que tu vas parler, je te mets pas d'hommes, de femmes ou quoi que ce soit, tu vois, mais c'est quel est leur profil psychologique? Tu vois, le profil psychologique, par exemple, à qui je peux parler en ce moment, bah, c'est des gens qui ont commencé à courir et puis qui ont un peu de mal à courir et qui voudraient se demander comment continuer à courir et comment préparer leur premier marathon. Et ben, ce gars-là, en fait, je le connais très bien. Alors, vraiment, je le connais très bien parce qu'en 2019, tu vois, à cette date-là, bah, j'étais en préparation marathon. Et je me demandais si j'arrivais à courir, si j'allais arriver à courir mon marathon pour mes 42 ans, alors que quelques temps plus tôt, je m'étais blessé et j'ai pas pu courir mon premier marathon qui tombait à peu près à 3-4 jours près, le jour de mes 42 ans. Et tu vois, j'avais les doutes en me disant, mais est-ce que je vais y arriver? Comment je vais faire? Etc. Et donc, je connais très bien, en fait, pour moi. Tu vois, je vais pas m'adresser à l'athlète, je vais pas m'adresser aux champions, je vais pas m'adresser aux entraîneurs, aux ceux qui sont déjà dans le domaine. Je m'en fous que mes podcasts soient écoutés par eux, parce que c'est pas eux la cible, en fait. C'est vraiment pas eux. Certains les écoutent. Le pire, c'est que certains les écoutent. Parce qu'un jour, j'ai eu un coach, en discussion. Et il m'a dit, ah, j'ai écouté cet épisode, j'ai écouté cet épisode. Quelqu'un qui gagne des courses, par exemple, m'a dit, ah oui, ça, j'ai écouté, c'était super bien. Je dis, quoi, t'as écouté ça? Ben ouais, j'ai écouté ça et tout. Bon, bref, là, tu vois, ça remonte un petit peu mon truc, mon besoin d'être un peu visible, etc. Mais en fait, à la limite, c'est pas très important parce que quelque part, c'est pas pour lui que je le fais. Donc, il peut mettre un commentaire, il peut me dire, tu aurais pu dire ça, faire ça et tout. C'est pas lui la cible, en fait. Et je m'en fous, en fait, de ces personnes-là. Je veux les avoir comme invités pour qu'elles nous apprennent des choses, mais je les ai pas en cible pour leur apprendre des choses. Et maintenant, en fait, que tu as déterminé ça, tu annonces clairement qui tu es. Tu l'annonces, tu peux le marquer sur une feuille, tu peux le faire dans ton premier contenu que tu vas faire, tu dis qui tu es. Par exemple, ma présentation pour Kimet 42 aurait pu être « Bonjour, je m'appelle Bertrand, j'ai 40 ans, je suis encore en surpoids mais sur la bonne voie, je connais rien en running, je ne connais personne qui court dans mon entourage et je vais vous raconter mes efforts pour devenir marathonien pour mes 42 ans. » Je pense, grosso modo, que ça doit ressembler à la phrase de présentation du premier épisode de Kimet 42, mon podcast Kimet 42, à peu près. J'ai dû dire ça dans la première phrase de Kimet 42, premier épisode, j'ai dû dire quelque chose comme ça. Je l'ai dit en plus qu'une phrase, tu vois, je l'ai dit en un épisode qui fait 5 ou 10 minutes, mais j'ai vraiment expliqué ça. C'est vraiment ce que j'ai expliqué. Et à partir de là, en fait, je ne peux pas être un imposteur, parce que j'ai dit qui j'étais. Je n'ai plus de masque, donc tu n'es pas un imposteur. Tu n'as plus le masque, tu fais tomber le masque. Tu ne construis ton contenu non pas avec le masque de l'expert, du champion ou je ne sais qui, tu construis ton contenu directement avec qui tu es. Et maintenant, ce que tu vas faire, c'est dire ce que tu veux faire. Tu dis ce que tu veux faire. Pourquoi, comment, quel est le sens que ça a pour toi. Et à partir de là, bah, tu vas le dire avec qui tu es, sans ton masque. Et alors, à partir, tu vas dire, voilà, j'ai fait ça. Pourquoi je le fais? Comment je le fais? Quel sens ça a pour moi? Qu'est-ce que j'ai appris? Et là, tu vas apprendre, t'entraîner, progresser chaque jour, le raconter, le documenter. Et c'est là que tu vas pouvoir créer du contenu. Et tu vas créer du contenu comme tu es, comme tu es, vraiment, tu sais à qui tu t'adresses, tu sais ce que tu vas leur apporter, tu le fais sans masque, et donc tu vas pouvoir progresser. Et petit à petit, tu vas pouvoir aussi fêter tes succès à toi. Tu as progressé, faites-le. Tu as réussi un nouveau truc, faites-le. Tout ce que tu arrives à faire, tous tes succès, faites-le. Même si tes succès te semblent minimes par rapport à ce que d'autres arrivent à faire, faites-le. Tu vois, tu le fais, tu fais une fête. Et en fait, tu le dis, tu l'annonces, tu dis, ouais, je suis content, j'ai réussi à faire ça. Tu sais pourquoi? Parce que toi, ça pose les jalons. Et ça remplit ton carnet de réussite, ça écrit ta success story, mais ça montre aussi à ceux qui vont t'écouter que eux aussi, en fait, ils peuvent passer ces caps-là et que eux aussi, ils peuvent remplir, avoir leur success story, tu vois, qu'ils peuvent aussi avancer dans ce sens-là. Et maintenant que tu sais faire ça, que tu as compris ça, fais-le le plus souvent possible. Fais-le le plus souvent possible. C'est facile car en fait, ça te passionne, ça t'intéresse, donc tu as naturellement envie de le faire. Tu as expliqué qui tu es, à ton audience le sait, elle n'attend pas autre chose de toi. Voilà, elle sait qui tu es, donc vas-y clairement et continue à le faire. Tu t'entraînes, tu progresses, tu apprends des choses, raconte-le le plus souvent possible. Tu as créé l'habitude chez toi et ton audience de le faire, de montrer ce que tu fais, qui tu es. Ils vont prendre l'habitude de t'entendre, de te voir, de te lire. Et donc là, vraiment, tu vas devenir plus proche d'eux. Et c'est aussi en prenant cette habitude-là que petit à petit, tu vas laisser exprimer le vrai toi et enfin être toi-même. Parce que tu as fait tomber le masque, parce que tu sais vraiment qui tu es, où tu vas, pourquoi tu le fais. Tu sais aussi vraiment les efforts que tu fais. Tu sais aussi que ce que tu fais, tes succès à toi, tu le fais parce que tu t'es entraîné, parce que tu as progressé, parce que tu as appris, parce que tu t'es dit, je veux faire ça, je fais ça pour arriver à le faire, je réussis à le faire, et c'est grâce à ce que j'ai fait. Donc tu fais tes propres succès, tu fais tes réussites, tu fais ce que tu arrives à faire grâce à toi, sans te dire que ça vient forcément de quelqu'un d'autre. Je sais que c'est un chemin qui peut te paraître très long et compliqué. Peut-être là maintenant, à l'instant précis, tu ne t'en sens pas capable. Mais mon dernier conseil, c'est un peu mon dicton de l'année, c'est fonce pas après pas. Commence petit, avance, pas après pas, marche après marche, mais commence, fais-le avec détermination. Et si tu as besoin d'aide, je suis là. Je te souhaite une très 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 belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao!
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish. But you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast. So everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.